Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. La notion du poète, disait notre ami Jean Rousselot, la notion du poète « faiseur de vers », entre guillemets, qui évoque pour nous les déliquescences précieuses de Monsieur de Montesquieu faisant sac et la rose chaque matin, dévotieusement posée sur le feuillet vierge, ne s'accorde en rien avec ce que Pierre Réverdi attend d'un artiste. Il faut qu'il peine pour l'art, qu'il en souffre pour bien le connaître à fond, comme l'exige pour être bien connu toute chose dans la vie. Il faut que cette émotion qu'il ressent, il la fasse ressentir à d'autres à son tour. Voilà, c'est extrêmement simple. Le poète doit exprimer une émotion. Cette émotion doit pouvoir être communiquée au lecteur. Donc c'est au niveau de la sensibilité que se réfugie la poésie. Et Rousselot d'ailleurs disait toujours à propos de Réverdi, qu'il avait bien connu, bien étudié, il disait « cette présence grave de la solitude donnera le ton à cette poésie qui n'emprunte aux saisons et au monde que les poids qui les entraîne vers l'abîme. » Et vous connaissez la formule « Oh, combien vraie » de Pierre Réverdi, qui a fait fortune cette formule. « Et je travaille dans l'espoir qu'aucune récompense ne me sera donnée. » Donc, comme disait Réverdi, on ne peut plus dormir tranquille quand on a une fois ouvert les yeux. Nous allons ouvrir les yeux, cette semaine encore, sur nos amis les poètes. Alors, bien sûr, je ne peux pas parler de tout ce que nous avons reçu. J'espère que, au fur et à mesure des semaines, nous aurons la possibilité de pouvoir évoquer les excellentes parutions, par exemple « Voltige » d'Isabelle Lévesque aux éditions « L'arbre qui tremble », mais je veux absolument faire cette émission quand même avec elle. Si, par impossible, cela devenait qu'elle ne soit pas libre, bien entendu, je vous lirai des extraits de ce recueil, mais d'ores et déjà, je tiens de nouveau à vous le signaler, « L'herbe qui tremble » de Voltige. Il y a une excellente note de lecture dans la revue de Michel Baglin, revue Texture, que vous trouverez sur Internet. Écoutons Isabelle Lévesque. « Trouble regard des fées, nous marchons, nul vis-à-vis. Ton visage de glace lente, reflet du même, et toute fleur sur le bord. Nous passons, les pétales tremblent, est-ce le vent? Ta main ne serre pas le souffle, il faut attendre, l'été encore retient ses branches. » L'été encore retient ses branches. Voltige d'Isabelle Lévesque aux éditions L'herbe qui tremble. Cela vous coûtera 14 € et bien sûr nous en reparlerons. Et puis notre ami Jean-Pierre Denis, je dis notre ami puisque nous avions eu le grand plaisir de réaliser une émission avec Jean-Pierre Denis ici dans ce studio de la rue de la Salie. Jean-Pierre Denis qui est à la fois le directeur de la rédaction du journal La Vie et bien entendu poète. Et à ce titre-là, auteur de plusieurs recueils, en particulier aux éditions Ad Solem, dont il faut saluer le travail, qui est un très bon travail donc pour faire diffuser la poésie. Alors Jean-Pierre Denis, ses parents sont toulousains et j'espère qu'il nous fera le plaisir d'une visite bientôt. Nous ferons donc une émission avec lui sur son dernier livre, qui s'appelle « Tranquillement inquiet », poésie, donc ce sont des poésies encore, et ceci aux éditions Ad Solem. « Tranquillement inquiet », donc ce nouveau recueil de Jean-Pierre Denis tient tout entier dans cet oxymore. C'est une attitude en même temps qu'une interrogation. Il veut dire l'ignorance que nous entretenons au sujet de nous-mêmes, sens de la vie, but de l'existence, réussite. Nous aspirons à la clarté, en même temps, nous composons avec l'hypocrisie qui ménage notre espace vital dans la société. Sans complaisance, Jean-Pierre Denis s'attache à faire tomber ses masques. L'espace ouvert par l'écart des pommes plus ou moins jointes constitue le creuset de ce recueil. Son secret aussi, la parole poétique, vient nous inquiéter tranquillement, mais profondément et non sans ironie. Elle nous invite à l'imprévu, à commencer parce que le souci de nous-mêmes cache trop souvent notre regard, notre vie. Jean-Pierre Denis, tranquillement inquiet, aux éditions Ad Solem. Nous en reparlerons. Et puis, je voudrais quand même signaler, nous ne l'avons jamais fait, je crois, et c'est pas bien de ne pas l'avoir jamais fait parce qu'elle est passée un peu à travers les mailles. Il s'agit de Béatrice Bouffil. Béatrice Bouffil qui a fait paraître aux éditions de la Sibylle un excellent ouvrage qui s'appelle « Obstiné à la vie, chassé du paradis », un ouvrage de poésie illustré par l'éminent peintre Joan Jordà. Joan Jordà qui vit à Toulouse, ce peintre catalan, donc réfugié de la République espagnole, ici à Toulouse depuis longtemps, et qui a magnifiquement, encore une fois, illustré ses poèmes de Béatrice Bouffil, « Obstiné à la vie, chassé du paradis », aux éditions de la Sibylle. Alors, quelques mots quand même, si ce n'est que ce livre a obtenu le prix de poésie, le grand prix de poésie, du Salon des Gourmets de Lettres de 2017, de cette année. Donc, nous devons saluer, bien sûr, cette parution. Alors, Béatrice Bouffil et Joan Jordà, c'est un peintre et un poète. Donc, il co-signe ce livre d'artiste au pluriel. C'est un livre magnifique. Il vaut 27 euros, mais je vous assure que vraiment, pour un livre d'artiste, il n'est pas cher du tout. Il co-signe donc ce livre d'artiste au pluriel, « Obstiné à la vie, chassé du paradis », le premier sorti des presses des éditions de la Sibylle, les éditions de la Sibylle qui sont de nouvelles éditions à Toulouse. Alors, Joan Jordà, d'abord, c'est l'artiste peintre, je vous disais, qui est un renom international, hein, qui est né à Saint-Feliu-de-Guíxols, en Catalogne, en septembre 1929, qui a été émigré dès 1939 avec les républicains espagnols. Joan est entré en peinture 8 ans plus tard et ne l'a jamais quitté. Ses toiles sont régulièrement exposées en Espagne et en France. Il y a eu un très beau film qui a été réalisé sur lui, en particulier son retour en Catalogne. Je me souviens de cette scène émouvante où Joan Jordà était à Montjuïf, donc dans la forteresse de Montjuïf, sur les hauteurs de Barcelone, qui domine le port, cette magnifique forteresse dans laquelle fut emprisonné le président de Catalogne, Companys, et qui avait été livré, Companys qui s'était réfugié en France, mais qui avait été livré par le régime de Pétain à Franco, et qui a été fusillé à la forteresse de Montjuïf. Et Joan Jordà rappelait, donc au lieu de l'exécution de Companys, il rappelait que celui-ci s'était déchaussé pour mieux sentir la terre catalane dans ses derniers moments. Voilà, donc il y a un très beau film sur ce retour de Joan Jordà à Barcelone, dans sa Catalogne. Et rappelons qu'il est né à Sant Feliu de Guíxols. Alors, les deux marchent ensemble. Béatrice Bouffil, qui est poète, qui est née en 1956, qui vit et c'est une Toulousaine. Et son œuvre poétique fait l'objet de parutions et de lectures. Nous essaierons bien sûr de l'inviter pour la rentrée. Alors les deux, disais-je, marchent ensemble, leurs âmes enlacées, leurs signes aussi. À l'instant où il prend en main ce livre, le lecteur acquiert la certitude qu'ils ont puisé aux mêmes sources, puisqu'ils ont monté le livre ensemble, une espèce d'accord magique. Il ne saurait être question de parler d'un texte et d'illustration qui lui serait subordonné, les mots de l'une et les encres de l'autre, d'en avoir les mêmes baluchons de rose, les carmins du sang qui coule et l'orange du métal en fusion, les cascades de topaze et les ailes d'arc-en-ciel. Ceci est un texte de Françoise Nicole, qui est maître de conférence à l'Université de Nantes et qui est spécialiste des rapports entre poésie et art visuel. Elle dit ceci encore. Les deux mettent en branle sous nos yeux des formes en mouvement pour dire lâchement au pays d'enfance. La rage dévastatrice, les gueules ouvertes des monstres qui meurtrissent la matière chère, mais aussi les corps qui se redressent pour l'insurrection, œil levé vers les hirondelles, la vie qui se ramifie et les nageurs qui glissent à l'unisson. Qui pourrait donc vouloir, qui pourrait donc pouvoir, quand à ce point on voit. Sur un papier d'une grande douceur qui glisse lui aussi entre les doigts, images et textes se frôlent, se confrontent ou s'accordent, ça bouge, ça fourmille, ça approche. Entre les figures, c'est un face-à-face violent, tendre, drôle parfois, incroyablement vivant. Le regard se pose toujours à l'échelle de la double page, jusqu'à l'image finale des nageurs, qui paraît remonter de la lointaine crête minoenne, image comme un cadeau offert à la poésie. Image qui comble le besoin d'horizon. À 12 reprises, la résolution poétique à Méditerranée, c'est au peintre qu'il revient d'écrire à la main les titres. Mais s'il pénètre ainsi sur la terre des mots, jamais les encres, en partie grâce à l'équilibre des blancs, ne s'imposent contre eux. Il faut juste prendre ce livre entre ses mains et l'ouvrir à n'importe quelle page. Françoise Nicole, donc. Obstiné à la vie, chassé du paradis, de Béatrice Beaufil, avec l'étoile de Joan Jordan. Essentiel, telle devrait être la volonté de la poésie, alliée à la peinture, ouverte à l'étendue de toute harmonie, navette pour retisser les voiles. N'être que l'essentiel du bagage des hommes partant vers l'avenir. Un avenir soudé par notre acharnement à recréer des liens au centre de l'humain. Pour vous, la marche à l'amble de nos âmes enlacées. C'est le geste du peintre et le chant du poète, décidé à écrire une page de ciel et pénétrer d'un trait là où vie et trépas délibèrent en fait, obstiné à la vie, chassé du paradis. Que ma poésie chante le métal et la croix, le marécage obscur et la déflagration, les gravats amassés contre les barricades, les mâchoires armées, et la délectation du poing aveugle où meurt le désir sacrifié. Que ma poésie soit l'auvent de la tonnelle, le parfum des glycines, celui des églantiers, la tiédeur sur la peau d'un vent dans les collines après que les cigales aient clamé la chaleur. Qu'elle soit collier de fleurs et gestes répétés, patience du glaneur, terre à moissonner. Que ses tendres racines parcourent l'infini comme un ruisseau palpite à l'ombre des galets. Qu'il n'y ait que ces mots versés sur le front chaud, perlant le long du nez, langue les récoltant, au goût sucré d'alcool distillé en été. Que tout ne soit battant qu'à la joie de la vie soudain se découvrant. Que ma poésie seule escorte l'exilé,
ne pèse jamais plus qu'un baluchon de rose, que pétale jonché demeure exception, sauf parfum embaumant l'intraitable beauté d'un regard pénétrant. Béatrice Bouffil, résolution poétique. Nous les avons chassés de notre paradis, les enfants, la lumière, et nos amours larvés dans le ruisseau du temps. Le rouge est apparu derrière le talus. Le soldat a laissé notre corps se cerner d'un lourd reproche. Nous avons beau plonger nos mains dans le néant, nous avons beau hurler, le silence nous tord. La bouche grande ouverte, dans les entrailles pleines de nos rêves meurtris, gît un aveuglement aux tenailles grisâtres. Dans la nuit déchirante est appelée la vie, mais elle ne répond pas et va de mal en pis. La joie azuléenne gambade vers l'oubli, un trait noir souffle un cri sur nos résignations. Il faut que nos mains pendent sur nos sexes déserts. Il fait si froid dedans et c'est si long l'hiver. Les jambes écartelées de ne rien posséder, notre peau est saignante des larmes de printemps. La langue est avalée et notre queue de bête, les chiens aux dents de lune hurlent aux amas de chair et aux os déboîtés, carmin de confusion. Nous n'en finissons pas de naître et de renaître. Quand nous voulons mourir, plus nous voulons mourir, vivre. Condamnation. Nos regards croisés, aux cigognes perchées, Andalusia sud. Arithmétique obscure au bout d'un escalier, à compter les degrés qui vont nous éloigner, au volet replié dans la chaleur du jour, à la porte fermée, close contre l'amour, un fumet de chair blanche et de sueur mêlée, à nos demi-sourires offerts pour une nuit, et la chaude présence, le bruissement de l'autre, le plissement des yeux, le percher de l'envie auprès de l'accoudoir. À tant de mains frôlées, dirigées vers l'oubli, à l'os rond du poignet posé contre la table, au pivot du stylo appliqué vaillamment sur le papier bleui, à trop de mots d'amour biffés, exaspérés, de n'être pas celui qui viendra nous chercher. À la rumeur d'en bas du bonheur animé des pires intentions, au vacarme doré des vignerons le soir, au sortir des vendanges, au chant des oliviers, à la douceur des hommes, peau de perles argentées, approchés de nos dents, et à l'horreur du monde qui nous creuse et nous ronge, appuie les mains fermées contre les torses nus jusqu'au sang, épousés par le goût du malheur. À notre étrangeté, à nos mille visages, à nos joies mutilées, au purpurin éclat du soleil de l'aimé, Anda, Lucia, Anda. Attends un peu. Il faudrait que je parle des pierres, de l'absence et des pierres, de l'œil cristal du froid dans le bleu de l'azur, de la violence née d'une journée banale. Quelque part, c'est vers l'est. Vers l'est, c'est forcément repoussé par l'ailleurs obèse et menaçant. Cadavres dans les champs, ensachés, randonnions et camphres et onguents. Il faudrait ramasser le silex dans la plaine et voir à l'étincelle cette hallucination, la vie resplendissante. Attends un peu, il faudrait croire en Dieu. J'y crois et forcément, sa caresse est extase et puis tout disparaît. Le mot lui a succédé, tranchant, décapité, sa couronne gît dans un bourbier de sang. Attends un peu, le monde seul en flamme et qui brûle en dedans. L'avons-nous à ce point de si longtemps quitté? Nous ressentons si peu son ardente matière, si peu les hurlements ou soudain à hurler, puis oubli forcément. Il faudrait s'arrêter de vivre divisé, un œil sur le charnier et l'autre sur la terre, fossoyeur et gisant. Vous êtes époupés. Seulement patientez. Que la vie nous déprenne. Hors des soieries oranges et des suaves étés. Le corps est gauchisant de la tumeur du monde. Les jardins sont spoliés. Mais l'amour abrasif s'installe une seconde. Il faudrait que je parle de son éternité. Attends un peu, attends. Ursa Major. Quelque chose de sourd pèse comme l'orage et le temps harceleur. Quelque chose d'éteint nous entraîne à la chute et nous étreint le cœur. Je pousse d'un revers négligent de la main ces brillants souvenirs qui m'enchaînent au manque. Et je reste assoupi dans ma nuit de berger, les yeux fixés au ciel, aux étoiles montantes, poussant des cris d'enfant à la vue de Persée, de Zubin, d'Andromède, d'Orion, de voies lactées, spectrales et déchirantes de luminosité. L'épaisseur du départ entête mes pensées. N'être jamais en place, toujours appareillé pour un lointain de larmes ou de folle gaieté, ne jamais renoncer à la violence rouge qui me brûle et me prend et me livre, filante à son expiation. Il faut détaler loin, loin des prisons, absente, et je reste alangui aux astres, dénudé à l'os, à la pelante ampleur de mes attentes, aux lèvres tentatrices du cosmos accouchant et dans la délivrance du monde dont je suis. Poussière de matin émergeant de la nuit, messagère et ferveur à l'aube, au moins que rien, je tends, arc-bouté sur les rives des morts, la lyre du poète aux douceurs harmoniques, excavant du langage sa matière sphérique. J'offre aux mains d'aventure les armes de mon corps sidéré, haletante. Je fixe la splendeur d'un attelage d'or à l'hydre du festin où je nourris ma flamme d'un désir hypnotique. Amour, Ursa Major. Se peut-il qu'il en faut? Forgeron haletant aux avant-bras noircis, au soufflet essoufflé, à la dure avant-garde de son prochain silence. Forgeron appuyé sur la forge tremblante, sèche de mille cendres, éteinte, balayée. De tant d'années vaincu de n'avoir que si peu atteint sa rédemption, forgeron bien-aimé, touchant de ses efforts et de ses yeux rougis, épuisant de l'espace les formes allongées pour les durcir, les cuire et devenir de fer, de la matière molle, éreintant la souplesse pour ne céder en rien à la douceur des choses. Forgeron de métier. Et son métier, c'est tordre. Son métier, le refus. Jamais se reposer, jamais laisser aller, ne lâcher prise enfin qu'à point de nuit tomber. Dure est la joie perdue de l'enfant esselé, débridant la forêt. De tant de cavalcades ne reste que la suie, ne pleure que l'acier. Le fer perce la terre et cuit dans un soupir orange et sa journée. Ranger les souvenirs de ses armes battues, des larmes damassées et repliées à l'endroit de son cœur, aplaties par la masse portée entre deux pellicules de ce métal intime, plus proche de lui-même que les mains d'une amie, ne connaît que le bruit d'un si bémol, d'un ré dans les basses harmonies quand il tape à l'amble de ses rages rentrées. Personne ne connaît la fermeté précise de ses muscles asséchés. Ce ne fut pas de fuir, à quoi il aurait pu devoir sa solitude, ni même d'être laid. C'était un forgeron, et il devait forger. Il n'eut jamais le choix. En lieu de ses études, il apprenait l'acier. Il galopait le soir pour apaiser ses reins dans la campagne humide et buvait au risé les larmes de ses yeux que le vent ne laissait pas même avancer jusqu'au coin de sa bouche. Jamais n'avait le temps d'en goûter la saveur de sel et de pitié. Le goût du sang plutôt, celui-là, familier, proche de son métier. Le sang qu'il ramenait sous ses ongles écorchés, à force de buter maladroit, fatigué, le soir, contre l'enclume. Ce ne fut pas non plus de ne pas regarder le corps des jeunes filles, leur hanche enlevée, que d'un geste à peine il aurait su forger contre sa peau cailleuse. Il aurait su trouver dans la matière chère le pli, la trace, où se dirige le prochain mouvement. Doucement, un appui, pour qu'ensemble se tordent, en fusion flamboyante, les solitaires peurs pour un soir réunis. Et lui aurait pleuré, et elles auraient goûté le goût de fer des larmes où se noyait sa vie. Alors, qu'y avait-il qu'ainsi il fut perdu le soir dans l'atelier, l'email éparpillé entre ses doigts meurtris? Il y avait le temps, les commandes à finir et l'argent qui manquait. Les épaules enchâssées dans la douleur montante. Il y avait le bruit des coups sur l'établi et ce lourd échafaud chaque jour avancé. La lame a affûté, le biais a cisaillé. Il y avait, il en faut. Il était le bourreau. D'où l'explication du titre, se peut-il qu'il en faut. Poème vraiment prodigieux, donc, de Béatrice Bouffil. C'est en même temps une hymne à Tubalcain, le forgeron. Il s'agit bien de vivre. Et je ne le peux pas. Je ne le voudrais pas si ce n'était que ça. Il s'agit bien de vivre et je ne le veux pas. Je ne le pourrais pas si ce n'était que ça. Il s'agit bien d'aimer et je ne le veux pas. Qui pourrait donc vouloir? Qui pourrait donc pouvoir? Quand, à ce point, on voit. Tu as besoin de mots d'amour, de gestes d'amour, de preuves d'amour. Tu as besoin d'être crevassé d'amour. Sans mots d'amour, sans gestes d'amour, sans preuves d'amour, tu es une âme qui chute dans le silence, vers l'abîme infini du vide éternel. Béatrice Bouffil, dans ce magnifique livre illustré par Joan Jordà, bien que illustré ne soit pas le mot approprié, disons, fait en complicité avec les peintures de Joan Jordà. De l'homme à l'animal. Il y eut la lumière quand tout se déchira. Un éclat aveuglant. La vie naissait d'un coup. Les muqueuses et le sang, le liquide amniotique, l'irradiation subite, la fatigue apparut, puis la curiosité. Ainsi, nous détenions, avant même la faim et juste après le froid, les clés dont dépendraient les portes de nous-mêmes, toujours les échangeant. Ou l'esprit aux aguets, ou le corps défendant, nous étions tous en rang, cohorte, accroupis. La noirceur de la nuit envahissait nos sens d'une terreur insigne. Nous tremblions jusqu'à l'os, nos mâchoires serrées. L'espace pariétal faisait alors suture avec l'imaginaire. Nous voyions, nous humions, nous tâtillons, nous pensions. Chacune des fonctions nourrissait la suivante. Nous étions projetés dans une autre caverne, celle de nos pensées, plus sombre encore et froide ou raide ou déliée. Tout en nous empruntait les couleurs de l'instant, les parfums entêtants, le musc et la fougère, le narcisse, le marais, la pierre et la mousse, sous nos doigts le gluant de l'eau, imprégné d'algues, puis le gel sur les mains soudain paralysant. Nous étions tous étreints par l'inconnu glacial, par le désir qu'à l'heure nous prenions pour la vie. C'était avant l'orgueil, avant l'éclatement. Nous étions tous unis par le même besoin. À l'extérieur de nous, s'articuler l'effroi et la machination. Le cosmos pesait trop sur nos nuques penchées. Comment se dégager? S'élever malgré tout. En s'érigeant, bientôt tout deviendrait à portée. Mais offrir à l'angoisse nos ventres démunis, là où l'enfant logeait, là où l'homme phallique volait à l'horizon la ligne de l'espoir, car, redressés soudain, nous étions vulnérables. Ainsi naquit le rêve, ainsi vint l'utopie. Ainsi nous séparions l'idée de son abri, l'instinct communautaire venait d'être créé, il faudrait partager les risques et leurs prix, rassembler le commun sans trier le distinct. Nos pieds étaient ancrés dans le meubles des sols, sur l'accident des pierres, dans le brûlant du sable, nos cœurs vagabondaient vers l'infinie rencontre, l'être humain s'enchantait de sa curiosité. Il fallait tout penser. La voile, à l'horizon, disait la terre ronde, l'humide et le sec, bornait notre savoir. Cependant, avançant,
se ramifiait la vie. Nous arborions les fleurs de notre connaissance au front des assemblées. Puis vint le temps d'un Dieu, l'unique rassuré. Il marquait la limite de notre acceptation de la complexité. L'animal reculait. Mais il fallait encore les chimères et les diables sur les stalles au bois brun, au relief chantourné. Il fallait les icônes et la crucifixion, le Christ aux yeux de peine et les anges à côté. Il fallait Masaccio, les primes perspectives, toutes les dimensions. L'enfer était aux portes de nos futurs vertiges. Enfin, l'ère advint des multiplications, imprimées, diffusées. L'industrie se créait. Le museau des redites et des répétitions se glissait dans le creux des singularités. Tout devenait le même. L'altérité serait la pire des victimes dont on vendrait la chair. Au wagon attaché, au désert appelante, de canons affamés, la terreur signerait son aboutissement. Un temps d'apocalypse obturait l'avenir. L'homme disparaissait. Et on crut qu'il revint. Un nouvel air vibrait dans nos réseaux sanguins. Les boyaux numériques traversaient les frontières. Mais un sang de métal et de spéculation engendra un tel monstre aux muscles invisibles que ses grands bras, d'un coup, balayèrent la terre.
Santiago. Les pieds sont reposés contre les murs d'enceinte et tournés vers le cœur. Les casques, les armées, les palais des jésuites, les encensoirs immenses balancés dans la croix majesté Gaucho.
Cordillère suintante.
Conquistador heureux d'avoir su rapporter les lignes horizontales des gradins des Mayas. Splendeur des heures passées, les accords plateresques de la pierre et du temps. Tout un déferlement de motifs inspirés, de reliques, de saints et de plaies paria, de mécréants, de pauvres, de ventres rebondis. Les passants hébétés pillent les souvenirs dans les troncs des églises. La gaieté pèlerine le souffle au bout des bras, les sceaux, les chansons rock, les sacs jetés au centre et le bruit du rebond sur les dalles carrées. Les larmes sur les joues des filles exaltées. Les corps de débutants montrés adolescents. Les farandoles folles. Caminos de Santiago, comme un chemin vers soi. Être arrivé au bout et sentir dans son cœur, la déception qui pèse. L'aventure est finie, et la jeunesse presque, pieds blessés, peau tannée, le regard détenu par les longues fatigues. Frémissement d'orgueil et de paix enfantine, désir de joies unies, de chants du même élan, de ce débordement d'une douleur atteinte et déjà dépassée. Déjà du manque, inscrit au milieu du cortex d'un moment à jamais juteux,
comme une fraise.
Santiago est ainsi la joie d'un fruit nouveau et déjà varié. La nuit tarde à tomber à l'ouest des péninsules et le regard tourné attend de traverser la fraîcheur des embruns. Quelques vagues ont poussé en haut des deux clochers, faisant comme un manteau sur l'épaule de Jacques. Un béret d'océan, composant des étoiles dans les yeux des croyants. Le ciel de Compostelle est habillé de laine et parsemé de croix. Très beau poème donc sur Saint-Jacques de Compostelle. C'est un poète aussi pour lequel le lieu est important et où le lieu lui permet de retracer tout un paquet d'émotions qui viennent bien sûr de l'histoire, de la géographie, des peuples qui ont hanté ces lieux. Très beau texte donc de Béatrice Bouffil sur Santiago de Compostela. Si nous venons sur terre sans saisir la beauté, combien d'oiseaux perdus, aux ailes murmurantes et aux voix soiffées, viendront accompagner notre marche au matin. Tout en nous, d'unitaire, nous enjoint à aimer, mais l'être inimitable que nous formons au jour, cet être éblouissant de son unicité, pourrait s'en crier gare aux multiples cédés pour n'avoir pas saisi le miracle du souffle, ni l'étourdissement orange d'un soleil venu loger au front de nos plus beaux réveils, ainsi se condamnant à l'écartèlement, à l'appel des procès et des réquisitoires, à l'asséchante et vaine ardeur au jugement, ainsi se préparant aux pires redditions, à l'implacable et sort des classifications, recettes méthodiques et rangées de l'outrage, tandis que le milieu ou le vide nous prend pour qu'abreuver de joie nous puissions le combler, tandis que le milieu, au repos de l'horloge, en cet éclat de rose aux lèvres de l'été, vient éclairer l'obscur, chanter la vénusté, un grand navire au loin, aux manches retroussées, aux regards pleins d'écume, étrave et liberté, dessine en son sillage le sourire d'un rêve, un tracé de pinson sur un bleu péruguin, la voile d'une voix d'enfant dans le lointain, le froid sec de l'hiver à la laine de menthe et la tiède gorgée d'une pluie de juin. Si nous passons sur terre sans saisir la beauté, il nous faudra mourir plutôt qu'y renoncer. Alors il y a là, on voit là que c'est une poésie qui est souvent un peu alchimiste, hein, mais une poésie, je dirais, d'une grande spiritualité et quelque peu initiatique. Guetteur du muséum, Jean-François L. C'est une ronde. De puissants bras autour d'un cratère de briques. La sentinelle au loin veille sur la clarté de nos enchantements. Miroir pour le reflet d'un long pèlerinage dans l'écosse du temps. De nuit, les cris d'un loup, la fureur des tribus, la rumeur des sagaies font un écho aux fauves. Le métal de la terre régurgite des langues rouges et gorge à l'affût. La double peau des bêtes s'ouvre sur des squelettes. Absence de la chair, mais corps en mouvement. Le mur est allongé sur le hamac du ciel, le rayon utérin d'un soleil curviligne en caresse les flancs. On a les yeux percés de flèches inconnues. La défense en ivoire pointée vers l'idéal touche l'aile improbable du quetzal menaçant. Le jardin vertical fait un charivari dans l'équilibre intime. Un coq de roche à froid, mais le casoir bleu inonde la pupille d'un geste sous-marin. Tout va de bas en haut jusqu'au creux du vertige. Le sol tremblait, la peur couronne les enfants d'une grâce insolite. On marche à petits pas sur un pont suspendu, de filin et de fer, cordé vers l'avenir. Tout fonctionne en vivant. Cinq façons d'arriver sur les rives du vivre. Du naître au devenir et danser doit suffire en un enchaînement qui façonne du sens à nos nécessités. C'est occuper l'espace du totem au semblable, demeurer différent en son unicité, l'amour se reproduire et disparaître un jour dans un bruit de magma, de clapotis brûlants, de boursouflures opaques au ventre de la terre. Alors là aussi, un poème, on peut trouver quand même des inspirations ésotériques, par exemple sur les cinq façons d'arriver sur les rives du vivre. Elle insiste sur le nombre, elle insiste souvent aussi sur la différence entre le multiple et l'unicité. Je ne dis pas l'unité, mais l'unicité. Et ce qui fait que le bas et le haut se rejoignent et en définitive se rassemblent. Béatrice Bouffil. Dans l'escalier du temps, on va tout à l'envers. L'expérience est palpable à degrés dissidents. L'inconnu élabore en nous un trouble étrange, de l'ombre à la lumière, du dehors au dedans. Nos mains sont allongées de bourgeons et bifaces. On entend vers le soir le crissement inquiet du grattoir à polir, le feu à longue flamme. Nous voici carapaces et jaunes et tortues, poussant un corps paré à l'immobile, et la belle rayée, comme rayée l'anneau qui sertit le jardin. La cathédrale en verre, double de nos pensées élevées par la vie, surgit vers les nuées. Nous voici au musée, et c'est un jour sans fin. Et nous allons terminer sur Méditerranée. Méditerranée, donc la mer de Juan Jordá, dont il ne faut pas oublier que il est en regard de la quasi-totalité des poèmes que j'ai lus. Et j'avoue que vraiment, chaque tableau est un petit chef-d'œuvre. Méditerranée. La couleur de la mer nous était familière, l'air saturait nos sens d'une énergie de sterne volant vers le lointain. Nous voulions les nommer, le sel sur notre peau et l'ombre de l'antique, les grands mouvements d'hommes près des ports pour partir et les dieux de l'Olympe, Chronos, traquant l'Europe, Odin ensemençant l'alphabet sur ses rives, Ulysse et les sirènes, Cadmos, les argonautes, le sage Pythagore assignant le savoir aux acousmaticiens. Extraire des nombres les racines du monde et s'aimer sans repos autour de son bassin, en hommage cosmique à ses rotondités, à ses angles, à ses creux, à ses cavernes obscures, à la ligne incurvée de son horizon bleu, aux harmoniques nées du ressac de ses vagues ainsi théorisées, à contempler la lune projetant sur les zones l'hypoténuse offerte au droit de sa pensée, Thalès réinventait la Méditerranée. Mare Nostrum, la nôtre, et sa force sauvage, la pulpe de ses flots, sourire élargi, Mare Nostrum, la vie, un éclair de bonheur, poignardant notre cœur au vibrato des vagues. Béatrice Bouffil avec Joan Jordà, obstiné à la vie, chassé du paradis, aux éditions de La Sibylle, édition toulousaine, que je vous recommande, un très beau livre d'artiste au prix de 27 euros, ce qui est vraiment insignifiant par rapport au chef-d'œuvre que vous aurez en vous procurant ce livre. Ainsi s'achèvent les poètes. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine, à 10h.